Et quand je vous ai parlé hier des apparitions de la Sainte Vierge à Lourdes, les gens ont beaucoup aimé ça, et la plupart des gens, à mon grand étonnement, m'ont téléphoné pour me dire qu'ils ne connaissaient pas vraiment les apparitions de Lourdes. Ils avaient entendu évidemment parler des apparitions de Lourdes, puisque Lourdes est le plus grand lieu de pèlerinage de la chrétienté. Je crois bien que dans tout le christianisme, de n'importe quelle religion chrétienne, il n'y a pas un lieu aussi fréquenté où les foules arrivent par train, par autocar. La gare de Lourdes est immense, on n'a pas idée. Il y a là des dizaines et des dizaines et des dizaines de trains qui arrivent et qui repartent. C'est phénoménal. Il faut vraiment aller à Lourdes pour voir ça. C'est extraordinaire. Et c'est dans l'ensemble la foi profonde des gens. La simplicité ou la grandeur même dans la simplicité de nombreux pèlerins de toutes les conditions sociales, de tous les âges, de tous les pays du monde. Donc je vais vous parler d'aujourd'hui de Sainte Bernadette Soubirous, dont le corps est miraculeusement conservé à Nevers. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Le 7 janvier 1844, est né à Lourdes de François Soubirous, qui était un homme bon mais très pauvre, et de Louise Castéro, C-A-S-T-E-R-O-T, Castéro. Une petite fille qui fut nommée au baptême Marie Bernarde. Mais plus tard, on l'a désignée sous le diminutif de Bernarde, Bernadette. Elle était l'aînée de la famille, on lui l'a confiée au mois de juillet suivant à une nourrice d'un village voisin, Bartrès, qui l'a gardée 15 mois, jusqu'en octobre 1845. Elle va être attachée à sa nourrice, c'est curieux, parce que 10 ans plus tard, en 1855, monsieur et madame Soubirous ont connu la misère, ce fut épouvantable. Monsieur Soubirous avait été blessé, j'ai lu ça dans une vie assez volumineuse de Bernadette. C'était un homme qui travaillait dans un moulin, puis il était meunier de son état, puis il était blessé. Puis il a sombré dans la misère, parce qu'il a dû quitter le moulin de Bolly où il travaillait, puis il a loué une maison. Et comme bien des gens aujourd'hui, en 1996, il n'arrivait pas à payer son loyer. Il a été obligé, c'est terrible, de chercher refuge dans l'habitation d'un parent, rue des Petits Fossés à Lourdes. Et puis là, finalement, il a habité une espèce de taudis. Et Bernadette, qui avait grandi dans des conditions pénibles, était d'une santé plutôt chétive. Et surtout, elle souffrait d'asthme. Elle en mourra d'ailleurs, jeune, mais après avoir été religieuse un certain temps. Pendant 7 ou 8 mois, Bernadette a été soignée chez sa tante Bernarde, le même nom qu'elle, qui était en même temps sa marraine. Vers la fin de 1857, à 13 ans, sa nourrice de Bartrès l'a demandé pour en prendre soin comme gardienne d'enfants. Elle l'a employée en réalité à garder son troupeau pour lui faire prendre l'air, quoi. Mais ne sachant ni lire ni écrire, Bernadette, qui était fort pieuse, récitait les prières qu'elle avait apprises par cœur, soit le Notre Père, le « Je vous salue Marie » et même le « Je crois en Dieu ». Elle se plaisait à construire, comme bien des enfants, même dans mon enfance, on faisait ça, j'ai fait ça, des amis à moi faisaient ça, je n'étais pas seul, je vous assure, les plus jeunes, vous me croirez peut-être pas, mais c'était comme ça, on construisait de petites chapelles. On se faisait de petites chapelles sur de petites tables, des tables d'enfants. Et on aimait y installer des petits lampions, des statuettes, des petits pots de fleurs, petits vases. On aimait y mettre une nappe blanche. Et si, par hasard, un oncle, une tante ou un grand frère nous avait donné un petit ciboire, il y en avait des miniatures. Quel plaisir on avait d'avoir des retailles de scie, oui, des retailles de scie que l'on mangeait, mais que l'on essayait de tailler avec des ciseaux pour déposer ça des petits ronds, n'est-ce pas, comme des petites hosties qu'on mettait là-dedans, et on s'amusait comme ça, c'était curieux, hein? Impensable aujourd'hui, j'imagine. Donc, elle construisait de petites chapelles, notre Bernadette, sur les coteaux là-bas qui entourent Bartrès. Et puis, elle aimait bien jouer avec ses agneaux. Et dans son cœur, c'était toujours le plus petit, le dernier, qui était son préféré. Hein? C'est bien normal. Elle était empêchée, par son travail, de fréquenter l'école. Il y a 14 ans, elle n'avait pas encore fait sa première communion. La nourrice de Bartrès se préoccupait pourtant de son instruction religieuse, chaque soir. Mais Bernadette n'avait pas une mémoire très, très, très belle. Elle avait une mémoire ankylosée, on pourrait dire. Et ça décourageait les efforts de la nourrice. Alors il était convenu que Bernadette rentrerait à Lourdes pour se préparer à ce grand jour, comme on disait autrefois, C'est le grand jour, on chantait ça quand on allait en procession, garçons et filles dans nos costumes pour aller communier la première fois. Vous souvenez-vous, les vieux, là, de ce chant qu'on aimait, qui nous impressionnait et nous faisait pleurer. Et en février 1858, on la retrouve au foyer familial sur la rue des Petits Fossés. Et alors, se succèdent les 18 apparitions de Lourdes dont je vous ai parlé hier. Une faveur dont Bernadette a été l'objet en recevant ainsi la visite, pour ainsi dire, de la Très Sainte Vierge, n'ont absolument pas détruit sa personnalité. C'est surprenant, vraiment très surprenant. C'est exceptionnel presque. Elle était simple et un peu candide. Elle avait, à 14 ans, on peut dire, une ignorance tragique, presque, d'une petite enfant, de rien. Elle ne connaissait 100 fois rien. Elle avait peu de mémoire, je vous l'ai dit, mais ce qui l'a sauvée, c'est son intelligence. Elle était très intelligente, malgré tout. Et elle a été confiée aux sœurs de Nevers, une nouvelle communauté de la fin du siècle précédent, qui avait une maison à Lourdes. Alors, elle a étudié avec les pensionnaires et elle a fait des progrès assez marqués, quoique la plus grande partie de son temps était prise par les visites qu'on lui faisait, des gens qui venaient la voir. Parce qu'elle était une visionnaire. Les visionnaires, je ne sais pas pourquoi, les gens tiennent à voir des visionnaires. Parler à une visionnaire. Combien de gens me disent qu'ils sont revenus de Medjugorje, ils ont parlé à une visionnaire. C'est curieux, ce désir, cette curiosité qui ennuie ces pauvres visionnaires d'ailleurs. Bernadette tenait de la campagne des Pyrénées, là. C'est dans les montagnes, les Pyrénées, Lourdes, près de l'Espagne, au sud de la France, je vous l'ai dit hier. Mais elle tenait de tout ça un caractère assez particulier qui est le propre de ces gens-là, là-bas. C'est-à-dire qu'elle avait une répartie assez prompte et facile, assaisonnée d'une pointe spirituelle, mais jamais elle ne blessait. Elle était préservée par une grâce assez particulière. Elle avait de la ténacité dans ses idées. Et ça a été toute sa vie une note dominante chez elle. Elle n'avait pas nécessairement un caractère très facile. Elle disait d'ailleurs d'elle-même, « J'ai toujours été une entêtée. » Aussi, la Sainte Vierge m'en a puni en me faisant demander 3 fois de suite comment elle s'appelait. Comme si la Sainte Vierge se doutait qu'elle pouvait oublier le nom et puis pour marteler dans sa pauvre mémoire. Elle était vive, elle était gaie, elle ne reculait pas devant une espièglerie. À un moment donné, c'est chose assez curieuse, vous allez vous étonner. Elle était obligée, par le médecin, et à cause de sa maladie, de prendre du tabac, de priser du tabac. C'est une étrange coutume qu'on avait au 19e siècle, le priser du tabac. Mon père en prisait, moi je me souviens. Et elle a fait un jour éternuer toute la classe en donnant une prise à ses compagnes. Car le tabac que l'on mettait dans le nez faisait éternuer. Les gens les plus âgés connaissent ça. Comme elle ne savait pas méditer, elle avait pourtant un attrait et un amour énorme pour la prière. Et lorsqu'on voulait obtenir, chose étrange, une grâce, mais on envoyait Bernadette, cette jeune voyante, prier au pied du tabernacle, et sa prière, assurait-on, était toujours exaucée. On l'a vu souvent au milieu de ses crises d'asthme, refuser durant la nuit un adoucissement qui l'aurait privé le lendemain de la Sainte Communion. J'explique pour les plus jeunes, c'est qu'à partir de minuit, jusqu'à il y a quelques années, quelques dizaines d'années, il ne fallait même pas se brosser les dents après minuit. Pour être parfaitement à jeun, disaient les gens très rigoristes, et la plupart des gens étaient très rigoristes là-dessus. Il fallait pas boire une goutte d'eau. Il fallait pas manger, évidemment. Il fallait jeûner totalement de minuit jusqu'au moment de la communion, que l'on communie à 8h, 9h, 10h ou midi même. Ça partait, ça commençait à minuit. C'était comme ça, c'était le règlement. Par respect pour la présence de Jésus dans notre corps. C'était la perspective, c'était la façon de penser de cette époque. Alors, son amour de l'Eucharistie était vivant, très vivant dans son âme. Et Jésus lui-même a voulu l'associer à ses souffrances. Et un jour, de Vendredi Saint, elle a eu une très vive douleur à l'épaule gauche qui disparut le lendemain. La supérieure de l'hospice de Lourdes s'était fait une entorse et les médecins la condamnaient à 40 jours de repos. Alors elle a appelé Bernadette et elle lui a dit « S'il te plaît, va demander à la Sainte Vierge de me guérir tout de suite. » Et Bernadette l'a fait. Et le lendemain, la supérieure était sur pied au grand étonnement des docteurs. Bernadette a eu elle-même à Lourdes une fluxion de poitrine très grave pour laquelle on l'a administrée. Alors elle a demandé à boire de l'eau de la grotte. Vous savez, je vous ai parlé de l'eau qu'elle avait fait jaillir du sol là, dans la grotte. Alors, elle a bu de l'eau de la grotte et aussitôt après, elle s'est trouvée guérie. Quand un certain artiste eut terminé la statue de marbre de la Vierge, selon les indications de Bernadette, il lui a présenté sa statue, et elle a répondu, c'est bien beau, mais ce n'est pas elle, non, non, vraiment pas. La différence est comme de la terre au ciel. Quand on a fait la bénédiction de cette statue, sur le lieu des apparitions, la Massabielle, le 4 avril 1864, donc 6 ans après les apparitions, Bernadette était retenue dans son lit par la maladie. À l'inauguration de la crypte, car on a construit tout d'abord la crypte de l'église avant de tout édifier tout ça, le 21 mai 1866, c'est comme la crypte à l'oratoire Saint-Joseph, là, elle s'est cachée parmi les enfants de Marie de la paroisse. Mais le soir, à l'hôpital de Lourdes où elle résidait, là, la foule des pèlerins a voulu la voir. Et elle n'aimait donc pas ça. On a été obligé de la faire promener dans la cour au milieu des religieuses. Et son humilité en a souffert beaucoup. Elle a essayé, mais c'était en vain, de se soustraire à toutes ces ovations. Et tout en se promenant, elle disait, « Vous me faites voir comme une bête curieuse. » Mais sa mission publique recevait ce jour-là son couronnement, si on peut dire. Elle pouvait désormais suivre la voie intérieure qu'il l'appelait au cloître, dans la solitude, car elle n'en pouvait plus de tout ça, c'était trop. Et dès l'année 1863 d'ailleurs, avant même ces événements, Mgr Forcade, évêque de Nevers, l'avait entretenue de sa vocation. Elle avoua que son désir était de demeurer toujours avec les religieuses de Nevers. « Mais, dit-elle, je suis ignorante et je suis pauvre. Je ne sais rien faire. je ne puis ambitionner de devenir leur sœur. Alors l'évêque s'est contenté de répondre que l'on pouvait, en certaines circonstances, faire fléchir les règlements. Alors il l'a engagé à méditer puis à prier, puis en août 1864, à 20 ans, Bernadette a déclaré très clairement à la supérieure de Lourdes qu'elle voulait être reçue dans sa congrégation. Son état de santé l'a retenue près de 2 ans à Lourdes. Mais elle a suivi la vie de la communauté et elle a donné des soins aux malades. Et le 4 juillet 1866, à 22 ans, elle a fait ses adieux à Lourdes, à sa famille, à la grotte qui était son ciel sur la terre. Et elle s'est dirigée vers Nevers pour y trouver pour elle une espèce de paradis de la vie religieuse. Et je vous assure que quand on a 20 ans, 18 ans, 22 ans, qu'on entre en religion, on a l'impression d'entrer au paradis. La vie religieuse est comme un paradis. Je le sais, je l'ai expérimenté. Hein? Et vous tous qui l'avez expérimenté, vous le savez. Vous pouvez vous demander où est Nevers. Nevers, c'est sur la Loire, dans la Nièvre. C'est à 225 kilomètres de Paris. La Congrégation des Sœurs de la Charité et de l'Instruction chrétienne de Nevers, fondée vers la fin du XVIIe siècle, et non pas du XVIIIe, bien oui, la fin du XVIIe siècle, 1600, quelque chose, là, avait un double but, soigner les pauvres et instruire les enfants. Ben oui, soigner les pauvres et instruire les enfants qui n'ont pas de moyens de s'instruire, quoi. Dans l'Église, constamment, on a fondé des groupes d'hommes et de femmes pour faire des œuvres de charité extraordinaires. Quand la terre était couverte, et elle est encore couverte de la générosité de tous ces hommes et ces femmes, qui sont appuyés de plus en plus par des laïcs, hein, qui donnent 1 an, 2 ans, 3 ans, mais parfois qui donnent toute leur vie comme des espèces d'oblats, on pourrait dire. Hein. Mais qu'est-ce que tout ça va devenir, si on peut se le demander, hein. C'est inquiétant. Dans les derniers jours qui ont suivi son arrivée, Bernadette, sur la demande de la mère générale, a dû évidemment faire le récit des apparitions de la Sainte Vierge à Lourdes en présence de toute la communauté puis du noviciat. Elle l'a fait avec la plus grande simplicité, avec beaucoup de grâce et de naturel. Mais pour sauvegarder son humilité, il fut défendu aux novices et aux postulantes de parler à Bernadette de ses faveurs extraordinaires qu'elle avait reçues. Et toutes ces jeunes sœurs ont obéi religieusement. Elle était obéissante dans ce temps-là. Hein? Et elle-même, Bernadette, elle a gardé un silence absolu sur les apparitions. Quelques jours après, Bernadette a écrit aux religieuses de Lourdes pour raconter son voyage. Elle écrivait en terminant son bonheur de se trouver au noviciat, qu'elle appelait la maison du bon Dieu. Comme c'est vrai, hein? C'est chanté d'ailleurs dans les psaumes. On dit, mon plus grand bonheur, c'est de vivre 1000 ans dans ta maison, Seigneur. Alors, elle a vêtu l'habit religieux à peine 3 semaines plus tard, le 29 juillet 1866, en la fête de Sainte-Marthe. Elle a reçu le nom de Sœur Marie Bernard. Elle a repris son nom de baptême, Marie Bernard, au lieu de Marie Bernarde, hein, tout simplement. On a enlevé un... Et elle n'avait plus qu'une seule ambition, c'était de se faire oublier. Et d'être comptée pour rien. C'est un désir, croyez-moi, qui est très, très, très habituel chez la plupart des gens qui rentrent dans des monastères, dans des cloîtres. Hein. Il y a un profond désir de se faire oublier, de compter pour rien, d'être tout avec Dieu. En Dieu, pour Dieu. C'est curieux ce désir. Il y a une psychologue qui pourrait se pencher là-dessus, se demander si c'est pas quelque chose de masochiste, qui se transforme par la grâce de Dieu en quelque chose de noble et de grand et de très beau. Elle disait, je suis venue ici pour me cacher. Dès la fin du mois d'août de cette année-là, elle a dû déjà aller à l'infirmerie. Elle avait des crises d'asthme, des quintes de toux qui lui arrachaient. Presque du sang, mais elle n'avait aucune plainte. Hein? Elle murmurait seulement « Mon Jésus ». Et elle regardait son crucifix avec une expression qu'on ne peut pas définir. Hein? Ces voyants-là ont tellement vu quelque chose de surnaturel que leur regard n'est plus comme le nôtre. Hein? Souvent, il lui fallait passer des nuits entières, assise sur le bord de son lit, les pieds posés sur une chaise. Parce qu'elle était oppressée, puis elle respirait difficilement. On lui disait, « Vous souffrez beaucoup sur Marie-Bernard. » Et alors, elle disait, « Il le faut, mais ce n'est rien, ce n'est rien. » Et son état s'est aggravé au point de donner des inquiétudes énormes aux supérieurs. Et la désolation était grande, même tout le noviciat redoublait de prières et de sacrifices. Mais comment on désirait beaucoup garder sœur Marie-Bernard au sein de Bernadette, dans leur congrégation des sœurs de Nevers, mais il y a une dispense qui lui a été accordée. Et sœur Marie-Bernard a pu faire profession tout de suite. Elle a prononcé ses vœux avec une ferveur, comme un ange. Mais ce don d'elle-même au Christ était à peine fait que cette malade, sœur Marie-Bernard, a retrouvé la santé. Et au bout de quelque temps à peine, elle a pu reprendre avec beaucoup de générosité tous les exercices du noviciat. Et le 8 décembre 1866, Dieu rappelait à lui la mère de Bernadette. Mais la pauvre Bernadette a été bouleversée, elle s'est même évanouie en apprenant cette nouvelle. Mais quand elle est revenue de son émotion, elle a prononcé, comme on dit en langage très spirituel d'autrefois, elle a prononcé son fiat, c'est-à-dire son acceptation, c'est en latin ça, c'est le mot que Dieu dit quand il crée le monde, un fiat lux, mais c'est aussi le mot de Marie quand elle accepte de Saint Gabriel d'être la mère de Dieu, et elle dit fiat. C'est une expression spirituelle qui est dépassée aujourd'hui, on ne dit plus ça, on ne parle plus latin. Alors elle a dit, mon Dieu, vous l'avez voulu, eh bien j'accepte le calice que vous m'avez présenté. Alors la profession religieuse a été renouvelée pour elle le 30 octobre 1867, le jour où ses compagnes se donnaient elles-mêmes au Seigneur Jésus. Il fut décidé qu'on garderait sœur Marie-Bernard à la maison mère. Mais chose pénible, on a tenu à l'humilier, car on craignait qu'elle devienne très orgueilleuse à cause des faveurs qu'elle avait obtenues à Lourdes. Et à la distribution des lettres d'obédience, imaginez, il n'y eut rien pour elle. Alors l'évêque, Monseigneur Forcade, a dit, « Et sœur Marie-Bernard, et on ne lui donnait rien ?» Alors la révérende mère générale lui a répondu, « Monseigneur, nous sommes embarrassés, elle n'est bonne à rien. » Elle dit ça devant tout le monde, c'est épouvantable, hein? Alors l'évêque lui dit, « Alors pourquoi ?» Et puis elle dit, « Si vous le voulez bien, Monseigneur, par grâce, nous essaierons de l'utiliser ici pour aider un peu la sœur infirmière. C'est tout ce qu'elle peut faire. » Et Monseigneur Forcade a approuvé, puis a donné sa bénédiction à la jeune religieuse, qui a senti vivement cette humiliation infligée en public. Et elle a avoué plus tard, qu'elle, sans jamais rien laisser paraître sur le moment, que c'était terrible pour elle, terrible. Et je vous raconterai la suite, comment, à travers toutes ces humiliations, elle est devenue cette sainte Bernadette admirable et merveilleuse. Car sainte Bernadette, c'est bien elle, n'est-ce pas, qui a eu 18 apparitions de la Vierge à Lourdes. Et alors, donc, nous étions rendus au moment où elle est grandement humiliée par la révérende mère générale de la congrégation des sœurs de Nevers, à Nevers, disons à 200 kilomètres de Paris, sur la Loire, et elle est vraiment très, très humiliée. La sœur dit, elle n'est bonne à rien devant l'évêque. Hein. Alors, elle n'a rien laissé paraître sur le moment. La récréation suivante, elle a montré la même amabilité, la même expansion, elle a soigné les malades avec une grande délicatesse puisqu'elle s'occupait de l'infirmerie. Avec bonté aussi, puis elle cherchait à les égayer même. Hein? Puis elle priait pour leur guérison, elle était souvent exaucée, mais en même temps, elle savait se montrer très ferme dans la pratique de quoi? De l'obéissance. On en parle si peu. Elle était profondément obéissante. Hein? Ah, c'est extraordinaire. Le médecin de la communauté a d'ailleurs su apprécier les services de sœur Marie-Bernard ou Sainte Bernadette. Et quand les savants, après sa mort, ont voulu la présenter comme une enfant hallucinée, tous les gens qui étudiaient Lourdes, etc., pour prétendre que ces apparitions c'était faux, puis c'était une enfant hallucinée, Et ce médecin a protesté hautement parce qu'il la connaissait bien. Il a dit que sa nature calme, simple et douce parlait bien haut, disait-il, contre une pareille théorie. En 1874, à 30 ans, Sœur Marie Bernard a changé d'emploi et elle a été placée à la sacristie. Encore, elle a obéi aveuglément à tout ce qu'on exigeait d'elle, et son humilité a souffert, bien quelquefois, d'être exposée comme ça à la curiosité du public parce qu'il fallait qu'elle entre dans le cœur. Rien ne la peinait autant que les visites où l'on rappelait le souvenir du passé et puis des apparitions à Lourdes. Elle avait demandé comme une grâce de ne pas aller au parloir, comme je la comprends. Quand on entre au cloître, être demandé au parloir, c'est une énorme souffrance. Je me souviens, c'était la chartreuse de Parkminster, c'était dans le Sussex. J'avais une autorisation très particulière d'y entrer. Et j'avais demandé, on m'avait dit, le prieur de la chartreuse, il était immense, m'avait dit qu'il y avait un frère convert canadien, québécois, canadien français, qui était entré là à la fin du siècle dernier, et qui n'avait jamais eu de parloir. Il dit, je vais lui demander s'il ne voudrait pas venir vous rencontrer. Après tout, c'est la première fois que nous recevons quelqu'un de chez vous. Parce qu'il ne recevait à peu près jamais personne là, dans ce monastère extrêmement secret. Et il m'est revenu en me disant, le vieux frère ne tient pas à venir au parloir, il vous salue, il vous remercie, mais comme il n'est jamais allé au parloir de sa vie, il préfère ne pas commencer ça à son âge. C'est incroyable. Et alors, les supérieurs de Sainte-Bernadette se sont fait un devoir de favoriser son attrait pour la vie cachée. Elle s'est appliquée à pratiquer l'humilité, d'ailleurs. Et elle s'est montrée reconnaissante des occasions qu'on lui en fournissait. Et quelqu'un lui demandait un jour si les procédés de la maîtresse des novices à son égard ne lui laissaient pas un peu d'amertume au cœur. Elle a dit non, 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 pas du tout, pas du tout. La maîtresse des novices a bien raison, car j'ai beaucoup d'orgueil. Une de ses recommandations était qu'on prie pour elle après sa mort. Elle disait, c'est assez sympathique ça, on dira, cette sœur Marie Bernard était une saintoune. Une saintoune, c'est en le langage, de lourd langage populaire. Hein. Elle parlait patois, Marie Bernard, quand elle était enfant, Sainte Bernadette, là. Donc, elle dit, on dira de moi, cette sœur Marie Bernard était une saintoune et on me laissera griller au purgatoire. Parce que si on prie, n'est-ce pas, pour les âmes du purgatoire, on peut les libérer, n'est-ce pas? C'est dans la doctrine catholique. Le détachement qu'elle avait montré à Lourdes, au sein même de la pauvreté, bien sûr, Marie Bernard, a pratiqué ça jusque dans ses moindres détails de la vie religieuse. Elle l'a étendue aux satisfactions même du goût, du cœur et de tout son être. Quand est venue, cependant, la guerre de 1870 avec l'Allemagne, là, elle a considéré cette guerre désastreuse et comme un châtiment pour la France. Imaginez, hein? Elle a même dit, et c'est épouvantable, mais c'est dans la spiritualité affreuse de cette époque, Sainte Bernadette dit, il faut à Dieu des victimes. Hein? Que c'est triste. Hein? On trouve même ça parfois, ça respire un peu dans la pensée de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus qui avait fait pourtant un grand pas en avant pour nous faire découvrir cet amour bouleversant de Dieu pour nous, qui ne veut pas de victimes, qui crève, qui explose sous les bombes. Voyons, qu'est-ce que c'est que... C'est épouvantable de dire des choses comme ça. Mais que voulez-vous? Elle était de son temps, et il faut la comprendre, il faut pas la mépriser pour ça. Et je ne méprise absolument pas Sainte Bernadette, que j'aime profondément. Vous verrez pourquoi encore par la suite. Dans une lettre à la supérieure de l'hôpital de Lourdes, d'ailleurs, elle s'exprimait comme ça, elle dit, « Nous aurions plus besoin de pleurer que de nous réjouir en voyant notre pauvre France si endurcie et si aveugle. Que notre Seigneur est offensé. Prions beaucoup pour ces pauvres pécheurs, afin qu'ils se convertissent. Après tout, ce sont nos frères. Demandons à notre Seigneur et à la Très Sainte Vierge de vouloir bien changer ces loups en agneaux. » Mais quand on lit bien ces textes, je les ai ici devant moi, les écrits de Sainte Bernadette et sa voix spirituelle présentée par André Ravier, jésuite, c'est un ouvrage de plus de 600 pages, alors j'ai tous ces écrits, il y a de très 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 belles choses là-dedans, je vous en lirai des passages tout à l'heure, mais on voit que par-dessus tout, c'est l'amour de Dieu qui envahit son âme. Hein? Même si elle parle comme on parlait dans le temps, là, il faut à Dieu des victimes, disait-elle, C'est l'amour. Elle, Lite, c'est une sainte et les saints sont envahis par l'amour de Dieu. Elle en vivait de cet amour. Cet amour animait tous ses actes et inspirait et soutenait ses efforts. Elle savait que chaque petite observance de la règle renferme la volonté de Dieu tout entière. Et c'est dans la doctrine monastique, ça, hein? Particulièrement de l'époque, on était plus strict qu'aujourd'hui. Et dès lors, bien, elle accueillait la règle avec soin pour se l'assimiler. Jamais elle n'a profité de ses infirmités pour s'autoriser à demander une dispense, d'ailleurs. Et clouée sur son lit par la souffrance, elle s'unissait à tous les exercices de la communauté. Elle entendait le chant probablement par la fenêtre. Elle allait en unité. Je me souviens dans les monastères, comme ça, quand on est malade et qu'on est dans sa chambre, on entend, même si on est au 7e étage et que les autres prient au premier, par les fenêtres, en été, ça sort et ça rentre par nos fenêtres et on peut prier. On veut prendre ses lieux de prière et prier exactement au même moment. Et alors, elle était privée assez souvent, dans les dernières années de sa vie, d'assister à la messe. Mais elle aimait à s'unir à toutes les messes qui se célébraient dans le monde. Et cet oubli d'elle-même la fait croître dans l'union divine, car c'est par en s'oubliant soi-même qu'on grandit dans l'union avec Dieu. Et par amour, elle a pris la résolution de faire toujours ce qui lui coûterait le plus. C'est une étrange forme de spiritualité, mais je ne la rejetterai pas si facilement. Elle écrivait d'ailleurs, « Jamais me décourager, mais voir la sainte volonté de Dieu en tout ce qui m'arrivera. » Vous direz, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est dans les préfaces. On rend grâce à Dieu toujours et en tout lieu, on le répète à presque toutes les préfaces. « Le remercier de tout, écrit-elle, pensant que c'est pour mon bien qu'il le permet. » Elle a voulu orienter toute sa vie vers l'amour de Dieu. Elle écrit d'ailleurs cette très belle petite prière de deux lignes. « Ô Marie, ma bonne mère, accordez-moi la grâce de tout faire et de tout souffrir par amour. » C'est beau, c'est simple. « Accordez-moi la grâce de tout faire, de tout souffrir par amour. » En somme, l'esprit de foi, l'amour qui l'animait, se manifestait à l'extérieur, et à son insu, ça répandait l'édification autour d'elle. Jésus a paru exalter lui-même l'humilité et l'amour de sa petite servante Sainte Bernadette. Et plusieurs fois, d'ailleurs, durant la vie religieuse, elle a semblé avoir des vues prophétiques. Par exemple, sur l'époque de sa mort, en 1870, au moment de la guerre, elle était retenue à l'infirmerie. Et la maîtresse des novices l'a envoyée demander de ses nouvelles. Elle a répondu, « Dites à la maîtresse des novices de ne pas s'inquiéter. Je ne mourrai pas aujourd'hui, ni avant longtemps. » Dans une crise d'asthme, 3 ans plus tard, en 1873, une des novices qui venait la voir lui demandait si elle avait peur de mourir. Elle dit, « Oh non, non, pas du tout. » L'autre lui a dit, « Cependant, vos crises d'étouffement sont si fortes que vous pourriez bien y rester. » Et Sainte Bernadette lui a répondu, « Allons donc. » Vous mourrez avant moi. Et de fait, quelques mois après, cette novice envoyée dans le sud de la France y est morte d'un refroidissement. Vers la fin de sa vie, elle dit à l'une de ses gardes malades, qui s'inquiétait, « Ne vous dérangez pas si souvent. On croit que je vais mourir. J'en ai pour plus de 6 mois encore. » Et Bernadette a été un apôtre de Marie pour remuer les âmes, leur inspirer l'esprit de prière, attirer les foules à Lourdes, leur faire prendre contact avec le surnaturel. Et devenue sœur Marie Bernard, mais elle a été apôtre par ses vertus, hein, par ses qualités profondes. Elle l'était pour sa famille avec laquelle elle a toujours entretenu une correspondance pleine de simplicité. Je vous ai lu hier un passage d'une lettre à son frère qui était religieux. Lorsque les siens d'ailleurs étaient dans l'épreuve, elle les soutenait. Elle leur suggérait d'ailleurs de voir ça avec la foi. Elle écrit un jour, « Il appuie à notre Seigneur de nous enlever notre cher et bien-aimé Père. Je viens pleurer avec toi. Restons cependant toujours soumis et résignés. La séparation de notre cher et bien-aimé Père est bien pénible, mais la consolation est grande, puisqu'il a eu le bonheur de recevoir les derniers sacrements. Alors remercions notre Seigneur de cette grande grâce et prions beaucoup pour le repos de son âme et celle de notre pauvre mère. J'ai pris aussi une bien large part à la peine de ton cœur de mère et éprouvée en perdant la petite Bernadette, car elle avait une nièce qui s'appelait Bernadette aussi. Console-toi, dit-elle à sa sœur, c'est un petit ange que nous avons au ciel, qui prie pour nous en ce moment où nous en avons tant besoin. L'avenir de ses frères la préoccupait. D'ailleurs, elle écrivait le 1er juillet 1876 à son frère Jean-Marie, qui faisait son service militaire. Elle lui dit, « Tu n'ignores pas que je te porte autant d'intérêt de loin que de près. N'ayant plus nos chers parents, il me semble que c'est un devoir pour moi, puisque je suis votre aîné, de veiller sur vous. Je te recommande avant tout d'être bien fidèle à tes devoirs de chrétien. » Je sais que les militaires ont beaucoup à souffrir et en silence. S'ils n'avaient le soin de dire tous les matins ces courtes paroles à notre Seigneur, et c'est très beau ce qu'elle lui suggère comme prière tous les matins. Mon Dieu, aujourd'hui, je veux tout faire et tout souffrir par amour pour vous. Mais Bernadette, qui est une âme pure, qui témoignait n'avoir jamais voulu commettre de péché, a connu un triple martyr, c'est-à-dire celui du corps, du cœur et de l'âme. Un jour, il lui est arrivé de dire à l'une de ses amies d'enfance, devenue sa sœur en religion chez les sœurs de Nevers, « C'est sans doute bien douloureux de ne pouvoir respirer, mais c'est bien plus pénible d'être torturé par des peines intérieures. Ah, c'est terrible. » Les conseils de son directeur, puis ses notes intimes, nous révèlent davantage son martyr du cœur. Ça lui est venu, évidemment, de ses supérieurs, je vous en ai glissé un mot, la révérende mère Joséphine Imbert, I-M-B-E-R-T. Elle redoutait pour cette Bernadette qui avait été privilégiée à Lourdes, elle craignait les périls effroyables de l'orgueil, mais elle a toujours cru de son devoir de la traiter avec froideur, et même avec rigueur, puis de l'humilier en toutes sortes d'occasions. Et sœur Marie Bernard en aurait senti, je vous l'ai dit, une vive souffrance. « Rappelez-vous souvent, lui disait son directeur, cette parole de la Sainte Vierge, pénitence, dont je vous ai parlé hier, c'est-à-dire conversion, retour vers le cœur de Dieu, vers l'amour de Dieu, se tourner pour recevoir dans notre propre cœur tout cet amour qui est déversé du cœur de Dieu, pour qu'il pénètre notre cœur. C'est ça la pénitence. Et vous devez être là, la première, à la mettre en pratique cette pénitence, ce retour vers Dieu. Pour cela, dit son directeur, souffrez tout en silence à cette intention afin que Jésus et Marie soient glorifiés. Et elle écrivait dans ses notes intimes, oui, à l'exemple de Jésus, pour l'amour de Jésus, je porterai la croix cachée dans mon cœur avec courage et générosité. C'est à partir de là, quand on porte sa croix, qu'on se convertit. C'est quand dans la souffrance, on sait toujours qu'on est aimé de Dieu et que cet amour nous envahit beaucoup plus grandement et beaucoup plus vivement parce qu'au creux de notre souffrance, à moins qu'elle ne soit tellement pénible que ça en soit d'une horreur épouvantable, eh bien, on se libère de soi-même. Et son directeur lui disait, quelle folie de se replier sur soi parce que notre Seigneur nous demande la main pour la clouer. Et elle dit, désormais, plus je serai crucifié, plus je me réjouirai. Mon Dieu, donnez-moi, je vous en prie, l'amour de la croix. C'est une doctrine extrêmement dangereuse et qui peut avoir l'air masochiste, mais elle ne l'est pas chez les saints. Elle peut l'être chez d'autres qui sont des malades. Mais chez ceux qui ont l'équilibre dans la foi et qui vivent vraiment de la grâce de Dieu et sous la direction d'un bon directeur, le sens de la croix n'est pas du masochisme. C'est au contraire la source d'une libération et d'une résurrection. Le Christ est passé par la croix et est ressuscité. Et ainsi nos âmes. À côté de la supérieure générale, la maîtresse des novices, qui a été plus tard placée à la tête de la congrégation, s'est mise sur Marie Bernard à toutes sortes d'épreuves. À vrai dire, elle n'a jamais entrevu les richesses de la vie intérieure de Sainte Bernadette. Et Dieu l'a permis ainsi pour façonner, on peut dire, cette sainte. Sœur Marie Bernard, ou Sainte Bernadette, a cherché dans le cœur de Jésus sa consolation. C'est là qu'elle a trouvé la patience pour supporter ses peines, la force pour souffrir avec sérénité. Et au martyr du cœur s'est joint celui d'une nature vive et ardente, réduite à l'impuissance par la maladie. Elle a eu conscience que notre Seigneur l'appelait à cette espèce d'étrange emploi d'être malade, comme Marthe Robin, peut-on dire. Et durant l'hiver de 1877, aux crises d'asthme, aux vomissements de sang, à l'oppression de la poitrine, se sont joints des douleurs intolérables qui étaient causées par un abcès au genou droit. Et bientôt, elle avait une tumeur énorme, une ankylose, se sont déclarées. Et elle s'est rappelée que la Sainte Vierge lui avait promis le ciel, mais à la condition qu'elle irait droit son chemin. Alors, à 34 ans, le 22 septembre 1878, là, elle a fait ses vœux perpétuels. Ce fut pour elle une occasion de se dépouiller de ce qui lui restait, c'est-à-dire de quelques images. « Je crois, a dit l'aumônier de la communauté, que Dieu a donné à sœur Marie Bernard un pressentiment de sa fin prochaine. Après la fête de Saint-Joseph de l'année 1879, comme je lui demandais quelle grâce elle avait sollicitée de ce grand saint, elle a répondu d'un ton énergique, « Je lui ai demandé la grâce d'une bonne mort. » Pourquoi demander à Saint-Joseph la grâce d'une bonne mort? C'est qu'il est mort avant Jésus, hein? Car on se souvient, Marie est au pied de la croix, mais Saint-Joseph n'est pas là, c'est que Saint-Joseph est déjà mort. Et comment est-il mort, Saint-Joseph, si ce n'est entre Jésus et Marie qu'ils l'ont veillé? Imaginez-vous une meilleure mort que de mourir entre Jésus et Marie? Puis vous avez moindrement la foi. Or, on peut bien lui demander à Saint-Joseph, comme elle le fait, « Je lui ai demandé la grâce d'une bonne mort. » Et le vendredi 28 mars, la supérieure générale lui a proposé de recevoir l'extrême onction et l'accepter ça avec empressement. Alors, on a réuni une partie de la communauté autour de son lit à l'infirmerie. On a des photos de l'infirmerie, hein. C'est pauvre, c'est pas possible. Et au moment de recevoir la Sainte Communion, elle dit d'une voix très forte, « Ma chère mère, je vous demande pardon pour toutes les peines que je vous ai faites, par mes infidélités dans la vie religieuse, et je demande aussi pardon à mes compagnes, des mauvais exemples que je leur ai donnés, et surtout de mon orgueil. » Elle a appuyé beaucoup sur ses dernières paroles, comme si elle avait voulu s'humilier davantage. Car humble, cachée pendant sa vie, elle cherchait jusqu'à la mort, saintement, avide d'humilité. Elle était avide d'humilité. Et dans les derniers temps de sa maladie, ses yeux, toujours vifs et limpides, ont pris une expression plus saisissante. Ses regards sont devenus beaucoup plus expressifs. Et à mesure que le corps s'affaiblissait davantage, bien la semaine sainte fut pour elle la semaine crucifiante. Mais sa patience, sa résignation se sont accrues avec la souffrance. Et la tentation est venue rendre l'épreuve encore plus douloureuse. Dans la nuit du lundi au mardi de Pâques, juste le lendemain du jour de la résurrection de notre Seigneur, elle a eu comme une sorte d'agonie. On l'a entendu répéter plusieurs fois, « Va-t'en, Satan, va-t'en. » Vous direz que c'est de l'imagination. Je n'en suis pas si sûr, moi, personnellement. Vous me direz que je suis très conservateur. Ça ne me dérange pas du tout. Le lendemain matin, elle a dit à l'aumônier que le démon avait cherché à l'effrayer, mais qu'elle avait invoqué le nom de Jésus et que tout avait disparu. Et comme il l'exhortait à renouveler le sacrifice de sa vie, et elle a dit, tout ça très sympathique, parole d'une sainte avant de mourir, « Quel sacrifice! Ce n'est pas un sacrifice de quitter une pauvre terre où l'on a tant de peine à servir Dieu. » Elle voyait bien qu'elle pourrait servir Dieu beaucoup plus facilement au ciel. Une des sœurs qui l'entourait lui a dit, « Ma sœur, vous souffrez beaucoup. » « Tout cela est bon pour le ciel », a-t-elle répondu. « Je vais demander à notre mère immaculée de vous donner des consolations, en somme à Marie, de vous donner des consolations. » Et Bernadette lui dit, « Non, non, pas de consolation. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle dit, mais la force et la patience. Au moment de la mort, c'est ce qu'il faut avoir, la force et la patience, beaucoup plus que des consolations. Et le mercredi de Pâques, 16 avril, dans l'après-midi, elle s'est confessée à nouveau avec une ferveur édifiante et se souvenant de la bénédiction spéciale que Pie IX lui avait accordée pour le moment de sa mort, étant donné qu'elle était une voyante reconnue, elle a demandé le rescrit, croyant qu'elle devait l'avoir en main pour que la faveur lui fût appliquée. Une drôle d'idée. Et on lui dit qu'il suffisait d'une intention, avec l'invocation du Saint-Nom de Jésus. Alors elle a invoqué le nom de Jésus aussitôt. Mère Éléonore lui ayant dit, « Ma chère sœur, vous êtes en ce moment placée sur la croix. » Alors la réaction de cette petite sainte, c'est d'ouvrir ses bras, comme une victime en forme de croix. C'est drôle, hein? Puis elle dit, « Mon Jésus, oh que je l'aime !» Alors on a récité les prières des agonisants et d'une voix faible et distincte, elle répétait tous les actes qu'on lui suggérait. Et une heure avant sa mort, elle a élevé ses regards au ciel. Son visage respirait le calme, la sérénité, une sorte de gravité mélancolique. Elle a baisé de nouveau le crucifix. Elle a demandé pardon à la révérende mère assistante qui se trouvait auprès d'elle de toutes les peines qu'elle avait pu lui faire. Puis de là, comme Jésus, elle a crié « J'ai soif ». Alors on lui a présenté une boisson. Elle lui a trempé les lèvres. Mais après avoir fait une dernière fois son signe de croix d'une manière admirable, comme nos signes de croix sont stupides souvent, je vois les gens qui font des signes de croix, je me dis toujours, si on enseignait aux gens à faire des beaux signes de croix, le sens du signe de la croix sur notre corps, hein, comme c'est beau, un beau signe de croix, sans ostentation, il ne s'agit pas de le faire avec une espèce d'ostentation en disant « Je fais mon signe de croix ». Non, pas du tout. Mais de faire un beau signe de croix d'une manière admirable, simple. Alors, quelques instants après avoir fait son signe de croix, elle a murmuré, Sainte Bernadette, elle a murmuré « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour moi, pauvre pécheresse, pauvre pécheresse. » Vous savez, les saints se sentent toujours profondément pécheurs. Pourquoi? Parce que très près de Dieu, illuminés par la présence de Dieu, ils voient toutes les bassesses de leur âme, toutes les horreurs et les pauvretés de leur volonté. Ils les voient, hein? Le saint pêche 7 fois par jour. Les saints sont des pécheurs, comme nous. Mais eux, ils constatent, ils voient beaucoup mieux leurs péchés. Elle expirait doucement, en priant comme ça à la Vierge. Le 16 avril 1879, elle avait 35 ans. La nouvelle de sa mort s'est répandue rapidement et Nevers, qui connaissait à peine cette religieuse qui était cachée pendant sa vie, a considéré sa mort comme un événement. On l'a proclamée une sainte. On voulait faire toucher à son corps toutes sortes d'objets. Et le samedi 19 avril, 3 jours plus tard, eurent lieu les obsèques qui ont été présidées par Monseigneur Lelon, le nouvel évêque de Nevers. Le corps fut inhumé dans la chapelle dédiée à Saint-Joseph, qu'elle avait prié pour lui demander une bonne mort, au milieu de l'enclos de la maison mère. La cause a été introduite à Rome en 1909. Une première exhumation du corps a eu lieu le 22 septembre et son corps a été trouvé rigide et conservé. Il est actuellement couvert d'une légère couche de cire car il a noirci un peu son corps. La béatification solennelle a eu lieu sous Pie XI à Saint-Pierre de Rome le 14 juin 1925. La canonisation a eu lieu le 8 décembre, le jour de la fête de l'Immaculée Conception. En 1933, la Vierge s'était identifiée à elle comme étant « Je suis l'Immaculée Conception » et elle avait dit ça dans le patois local. Le nom latin officiel de notre sainte, c'est Maria Bernarda. J'aimerais vous lire bien d'autres choses sur cette sainte. J'aimerais terminer avec une toute petite, petite prière d'elle, au Marie Immaculée, qui m'avait procuré ce céleste remède. Faites que j'y retrouve le faible et l'imparfait. Il serait donc tout aussi bien de fermer le confessionnal à tout péché mortel que de priver de la Sainte Communion ceux qui commettent encore habituellement le péché véniel. Curieux, hein? curieux comme prière. Elle était très audacieuse pour son temps. Et j'aimerais bien vous en parler encore pendant une heure pour vous montrer tout le caractère admirable de cette sainte à la volonté unique. Je vous recommande les apparitions de Lourdes de René Laurentin, publiées chez Le Tielleux, et toutes sortes de livres sur Lourdes et Sainte Bernadette.